Bonsoir. Donc, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour parler de la législation française en matière d'avortement. Mon souhait, c'est qu'à l'issue de cette réunion, vous puissiez avoir une connaissance au moins des grandes lignes de cette législation, qui est importante, et que vous en ayez une connaissance la plus claire possible. Alors, petite observation préliminaire, on peut se poser la question de l'intérêt d'une conférence sur la législation proprement dite en matière d'avortement dans le cadre d'un cycle qui s'intitule « Accueillir la vie ». Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi d'abord je suis avocat, mais je suis quand même bien conscient que la loi, elle a un caractère relatif et que la loi, elle vient dans un second temps après la réflexion sur l'élaboration de cette loi. Le problème de l'avortement, ce n'est pas un problème juridique. Le problème de l'avortement, c'est un problème médical, un problème biologique. C'est avant tout un problème philosophique, un problème moral. On sait maintenant que c'est un problème psychologique, parce qu'on commence à parler un petit peu du syndrome post-abortif. Mais on a déjà une réflexion philosophique. Et dans un second temps, en fonction des conclusions de cette réflexion philosophique, on va élaborer une loi ou on va modifier une loi. Donc la loi, elle est secondaire. Néanmoins, l'étude de la législation présente un intérêt particulier pour une raison simple. Il y a actuellement en France, depuis 1975, je pense que vous savez tous que la loi Veil, c'est 1975, c'est la loi du 17 janvier 1975, nous avons en France environ, sont les chiffres de l'Institut national des études démographiques, environ 210 000 à 220 000, 230 000 avortements par an. C'est un chiffre qui, fort étrangement, est constant depuis 1976, j'en ai peut-être fait un petit peu moins en 1975, depuis 1976, c'est un chiffre qui est globalement constant. Le fait que l'avortement soit remboursé, enfin il a été remboursé à partir de 1982, ça n'a pas changé grand-chose en nombre d'avortements. Le fait que la loi soit élargie en 2001, ça ne semble pas non plus avoir changé grand-chose. Le fait qu'on utilise aujourd'hui l'avortement par l'ingestion de médicaments, je reviendrai sur ce terme, c'est-à-dire la pilule RU486, ça n'a pas non plus changé de façon déterminante. Donc on a un chiffre qui est de l'ordre de 210 000, 220 000. Ça fait grosso modo 21-22% des enfants conçus qui, passez-moi l'expression, vont passer à la frappe. Nous sommes dans un état de droit. Si dans cet état de droit, il y a plus de 21% des enfants conçus qui sont supprimés par la loi de l'avortement, c'est parce que la loi l'a voulu. Alors il faut quand même se pencher sur la loi. Qu'est-ce que c'est que cette loi qui permet d'éliminer, passez-moi l'expression, 21% des enfants conçus? Et puis, donc ça c'est la première réflexion et le premier intérêt d'avoir une connaissance minimum de cette législation. Et puis, il y a une autre raison, et là ça devient extrêmement intéressant, à savoir que lorsqu'on étudie la loi Veil, on s'aperçoit que les termes en sont apparemment restrictifs, on s'aperçoit que le principe du respect de la vie humaine dès son commencement est posé par la loi elle-même, et on a le sentiment, c'est peut-être ce que peut donner une lecture rapide de cette loi, on a le sentiment que le législateur a voulu privilégier la défense de la vie tout en autorisant l'avortement dans certaines conditions. Alors on s'interroge, et on peut légitimement s'interroger, parce que nous avons tendance à opposer l'attitude consistant à refuser l'avortement pour des raisons philosophiques, morales, et accepter l'avortement. Mais on pourrait très bien avoir une loi qui autorise l'avortement et qu'il y en ait 2000 par an. ça voudrait dire qu'on aurait une loi restrictive, ça voudrait dire qu'il y aurait un certain nombre de sécurités qui se mettraient en place à partir du moment où il y aurait une demande qui serait faite par une femme qui voudrait se faire avorter, et ça voudrait dire qu'il y aurait un système qui autoriserait l'avortement, mais qui en même temps n'y serait pas véritablement favorable et chercherait à privilégier la vie. On pourrait en avoir 20 000 par an. Et si on en avait 20 000 par an, ça voudrait dire quand même qu'il y aurait aussi peut-être des sécurités plus relâchées, mais qui existeraient néanmoins. Mais on en a plus de 200 000. Donc nous avons une législation qui ouvre grand les portes de l'avortement, alors que les termes de la loi se veulent apparemment restrictifs, et je vais y revenir. Donc nous allons examiner cette loi. Quelle loi ? Alors des lois sur l'avortement, il y en a plein. Il y a la loi du 17 janvier 1975, qui est la loi Veil, la loi du 31 décembre 1979, qui est la loi Aubry, il y a la loi Roudy en 1982, qui a permis le remboursement par la Sécurité sociale, ce qui n'était pas prévu initialement. Il y a la loi Neyertz du 27 janvier 1993 qui institue le délit d'entrave à l'avortement. Et puis il y a tous ces décrets qui sont parus en 2004-2009 qui permettent l'avortement à domicile avec la fameuse pilule RU486. En fait, vous avez la législation fondamentale qui porte sur l'autorisation de l'avortement, et puis vous avez toutes les lois annexes sur le remboursement, sur les modalités comme la pilule abortive, que j'évoquerai, mais que j'évoquerai de façon plus incidente. La législation en matière d'avortement, ce sont trois lois. La loi Veil, 17 janvier 1975, la loi Pelletier, 31 décembre 1979, la loi Aubry, 4 juillet 2009. En fait, nous avons trois lois, mais deux ensembles législatifs. D'une part, les lois Veil-Pelletier. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que souvent, on dit la loi Veil, mais parfois, on dit la loi Veil-Pelletier. C'est un premier ensemble législatif. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer très brièvement. En fait, la loi Veil, c'est une loi qui est limitée dans le temps. Elle n'était prévue que pour durer 5 ans. Donc, en 1979, il fallait une autre loi pour fixer le cadre définitif de l'avortement légalisé. Donc on a ce premier ensemble, et puis en 2001, cette loi du 4 juillet 2001, qui a été proposée par un gouvernement qui d'ailleurs n'avait pas la même tendance politique que celui de la loi Veil, qui est une loi qui libéralise de façon importante et qui est une loi dont l'esprit n'est pas du tout le même. Alors, je pourrais très bien aujourd'hui prendre le Code de la santé publique et vous lire les articles et vous dire, ben voilà, voilà notre législation actuelle en matière d'avortement. Mais si je fais ça, je vais traiter de la même façon des dispositions qui ne sont pas apparues en même temps dans le temps, qui sont apparues de façon successive, et en fait, vous n'aurez pas une connaissance du processus progressif d'élaboration de la loi qui s'est fait entre 1975 et aujourd'hui. Or, ce processus d'élaboration, il est important, parce que, faut savoir que, bon, vous êtes tout jeune, vous ne savez peut-être pas, mais enfin, dans les années 60, par exemple, tout le monde, l'écrasante majorité des gens, savait que faire un avortement, c'était détruire une vie humaine. Il n'y avait pas la question, on ne se posait pas vraiment. Bon, au jour d'aujourd'hui, l'avortement est devenu un droit, et pour une majorité de gens, je pense, une bonne chose, l'expression d'une liberté, et donc il y a eu un retournement total des valeurs. Ce retournement des valeurs, on sait comment il s'est fait. Il s'est fait parce qu'il y a un lobby très puissant qui a accès aux médias de façon extrêmement large, et qui a préparé la loi Veil, qui l'a accompagnée, qui a accompagné les évolutions législatives. Mais c'est certain qu'en 1975, il y avait quand même dans notre pays toujours une majorité de personnes pour qui la vie devait être respectée, et donc, à l'époque, on ne pouvait pas sérieusement parler de droit à l'avortement. C'est la raison pour laquelle je crois que dans la législation d'aujourd'hui, il est utile de voir ce qui vient de la loi Veil, ce qui vient de la loi Pelletier et ce qui vient de la loi Aubry de 2001 qui n'a pas du tout, n'affiche en tout cas pas du tout le même esprit. Donc on va étudier successivement ces trois lois. Ça risque d'être par moment un petit peu indigeste, je vous prie de m'en excuser, mais on ne peut pas faire autrement. On va prendre notamment la loi Veil, c'est celle qu'on va examiner le plus précisément, et on va reprendre article par article ce qui a été décidé dans cette loi en 1960. Donc, s'il fallait que je définisse la loi Veil, je vous dirais trois choses. C'est une loi de dépénalisation partielle et temporaire, je vais m'en expliquer, qui affirme solennellement un principe qui est celui du respect de la vie humaine dès son commencement et qui prévoit deux types d'exceptions, l'avortement pendant les 10 premières semaines de grossesse et l'avortement thérapeutique. Loi de, donc j'examine ces points successifs. Loi de dépénalisation partielle et temporaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque à la loi Veil, nous avions, et après la loi Veil, on avait toujours l'article à l'époque 317 du Code pénal. Alors, pour les étudiants en droit, ne cherchez pas, l'article 317 dans votre Code pénal, parce que la numérotation a changé entre temps. Mais à l'époque, c'était l'article 317 qui réprimait l'avortement et qui en faisait un délit. Donc, la loi Veil nous dit ceci, c'est l'article 2, est suspendu pendant une période de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'application des dispositions des 4 premiers alinéas de l'article 317 du Code pénal lorsque l'interruption volontaire de la grossesse est pratiquée avant la fin de la 10e semaine par un médecin dans un établissement d'hospitalisation publique ou un établissement d'hospitalisation privée se faisant en disposition, etc. Donc en fait, la loi Veil dit, c'est l'article 2, pendant 5 ans, on ne va pas poursuivre les avortements qui auront lieu pendant les 10 premières semaines de grossesse qui sont faits par un médecin et dans un établissement d'hospitalisation publique ou d'hospitalisation privée. Donc, si l'avortement a lieu dans ces conditions-là, il n'y aura pas de poursuite. Bien sûr, les autres dispositions de l'article 317 pour un avortement qui aurait lieu, par exemple, au bout de 15 semaines de grossesse ou dans des conditions qui ne correspondraient pas à la loi Veil, sont toujours applicables et on pourrait, bien entendu, engager des poursuites. Donc, loi de dépénalisation et loi de dépénalisation temporaire parce que c'est pendant 5 ans. Ça veut dire, au bout de 5 ans, on va refaire le point. Sous-entendu, soit si c'est pas concluant, on va arrêter, mais bon, je pense que les pouvoirs publics n'avaient pas l'intention d'arrêter et de remettre en cause cette loi, et donc il fallait au minimum une nouvelle loi au bout de ça. Loi de dépénalisation et loi qui affirme le principe de, du respect de la vie humaine, et ça, c'est un élément extrêmement important. Article 1er, donc je vous le lis, et tous les mots sont importants dans cet article 1er. La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. Alors vous avez beaucoup de choses dans cet article. D'abord, on nous parle du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, c'est-à-dire dès la conception, parce que le commencement de la vie, c'est la conception. Ce commencement, ce respect de tout être humain, il est garanti par la loi. C'est rassurant. On nous dit que c'est un principe. On nous dit qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'en cas de nécessité, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire on ne peut pas faire autrement, et selon les conditions. Donc, je rappelle quand même que le législateur n'est pas obligé de poser un principe dans une loi, d'ailleurs c'est même rare qu'on pose un principe dans une loi. Le principe du respect de la vie, j'y reviendrai tout à l'heure, n'avait jamais été posée avant la loi Veil. C'est absolument extraordinaire. C'est dans la loi Veil qui autorise l'avortement que pour la première fois, dans notre système législatif, on pose le principe du respect de la vie humaine et dès son commencement. Alors, les conditions de mise en œuvre de l'avortement dans la loi Veil. C'est la section 1 qui traite de l'avortement, d'interruption volontaire de grossesse, hein, c'est l'expression consacrée dans la loi, pratiquée avant la fin de la 10e semaine. Je vous lis l'article qui modifie le code de la santé publique. La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Article suivant, l'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation publique ou dans un établissement d'hospitalisation privée satisfaisant disposition de l'article 160. Donc nous avons l'état de détresse. Nous avons une interruption de grossesse qui ne peut avoir lieu qu'avant la fin de la 10e semaine, qui ne peut être faite que par un médecin et que dans un établissement d'hospitalisation, c'est-à-dire que ça peut pouvoir être fait par exemple à domicile ou chez le médecin. Les formalités. Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, premièrement, informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, mise en garde, il doit l'informer des risques. Deuxièmement, lui remettre un dossier guide. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ? Eh bien, vous avez l'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères célibataires ou non et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître. Quand même, on parle de problèmes d'adoption, les problèmes d'aide aux mères célibataires. Deuxièmement, la liste et les adresses des organismes visés à l'article suivant. L'organisme visé à l'article suivant, c'est l'organisme agréé auprès duquel la femme, après avoir vu son médecin, doit avoir une consultation qui est une consultation obligatoire. La femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article 162.1 doit, après la démarche prévue à l'article 162.3, c'est-à-dire après avoir vu le médecin, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification, c'est pas le planning familial, hein, c'est autre chose, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation. Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressé lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés. C'est-à-dire, on suppose que si elle est là, que s'il y a une démarche en vue d'un avortement, c'est parce qu'il y a un problème d'ordre social, matériel ou autre, et on va essayer de voir dans quelle mesure on peut apporter une solution à ces problèmes. Donc, pour risque de répéter, premier entretien chez le médecin, il doit l'informer des risques encourus, il doit lui remettre le dossier guide où il y a les aides qui sont exposées, la liste des établissements agréés, elle a ensuite cette consultation obligatoire dans l'établissement agréé, et si elle décide, malgré tout, malgré les conseils qu'on aura pu lui donner, de se faire avorter, elle va revenir chez le médecin, qui devra lui demander une confirmation écrite, qui ne pourra d'ailleurs accepter cette confirmation qu'après un délai d'une semaine après la première visite, ce pour beaucoup, et en cas de confirmation, il pourra, bien entendu, pratiquer lui-même l'interruption de grossesse, bien entendu, comme je vous l'ai dit, dans un établissement hospitalier. Donc, voilà le mode opératoire tel que retenu par la loi Veil. Ensuite, dans cette rubrique, nous avons plusieurs dispositions. disposition concernant la femme mineure. Bien entendu, si la femme est mineure, eh bien, il faut le consentement d'une des personnes exerçant l'autorité parentale. Disposition concernant la clause de conscience, importante. Un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse, ni de pratiquer celle-ci, mais il doit informer dès la première visite l'intéressé de son refus. Sous la même réserve, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux. Donc ça, c'est la clause de conscience, telle qu'elle résultait de la loi Veil, elle a été modifiée par la suite. Également, une disposition administrative. Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par un médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée. Au médecin inspecteur régional de la santé, cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme, bien entendu. Donc nous avons là une disposition qui a un but purement statistique. J'en viens brièvement à l'avortement thérapeutique tel que exposé par la loi Veil, brièvement parce que les dispositions sont elles-mêmes très brèves. L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiqué si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Donc l'expression, c'est affection d'une particulière gravité qui est reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Vous connaissez tous, je pense, si vous vous intéressez au problème de la défense de la vie, l'usage qui a été fait de ce texte avec les enfants trisomiques, puisque nous savons aujourd'hui que 2% des enfants trisomiques voient le jour, et c'est justement à cause de ces dispositions. La loi Veil comporte d'autres dispositions importantes. D'abord, concernant les établissements d'hospitalisation privés. Dans les établissements d'hospitalisation visés à l'article L176, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétriques. Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive. Je ne sais pas si ces dispositions ont été respectées, en tout cas je ne sais pas si elles ont été mises en œuvre. Ce qui est certain, c'est que dans l'esprit du texte, c'était la manifestation de la volonté d'éviter qu'il y ait, comme aux États-Unis, des cliniques d'avortement où on ne fait que des avortements. La loi Veil comporte également des dispositions pénales très intéressantes. Dispositions pénales qui instituent un délit, alors là ça va certainement vous étonner. Je vous le dirai tout à l'heure, mais je vais vous le dire tout de suite. Ce délit a été supprimé en 2001, mais enfin il a existé de 1975 à 2001. Délit de provocation à l'interruption de grossesse, même licite, sans préjudice des dispositions de l'article 60 du code pénal, seront punis d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 2 000 à 20 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet. Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe et indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits, objets, etc. qui pourrait aboutir à une interruption de grossesse. C'est-à-dire qu'il y a dans cette loi Veil un délit qui est constitué, qui est le délit de provocation à l'avortement. Provocation à l'avortement, même licite, c'est quand même quelque chose qui convient de relever Je reviendrai tout à l'heure sur ce point. La loi Veil comporte également, dans son article 13, un principe important. En aucun cas, l'interruption volontaire de la grossesse ne doit constituer un moyen de régulation des naissances. À cet effet, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour développer l'information la plus large possible sur la régulation des naissances, etc. Donc, nous avons, indépendamment du premier principe selon lequel la loi garantit la défense, le respect de la vie humaine dès son commencement, nous avons un second principe qui nous dit qu'en aucun cas l'avortement ne doit être un moyen de régulation des naissances. La loi Veil a été est passée au Conseil constitutionnel, elle a été déclarée constitutionnelle et elle a été promulguée le 17 janvier 1975. Je vais revenir, bien entendu, sur cet arrêt très important du Conseil constitutionnel, mais je préfère, dans la foulée, évoquer la loi Pelletier du 31 décembre 1979, parce que au bout de plusieurs années, il fallait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fixer le cadre définitif de l'avortement légalisé. Donc, il fallait une nouvelle loi, et c'est la loi Pelletier. Alors, la loi Pelletier, elle va apporter un certain nombre de choses à la loi Veil, c'est-à-dire qu'elle va reprendre le principe que la loi garantit le respect de tout être humain, etc. Mais elle va y ajouter ceci. L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant, c'est beau de voir le mot enfant, dans la société, et la politique familiale sont des obligations nationales. L'État, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent. Bon, je n'engage pas beaucoup, mais enfin ça ajoute à la solennité du principe qui est affirmée, et c'est vrai qu'on y parle de l'accueil de l'enfant, ce qui est toujours finalement agréable. Les dispositions pénales de la loi Pelletier sont également intéressantes, puisque la loi Pelletier va aggraver les peines en cas d'avortement illicite, mais de la même façon, elle va dépénaliser définitivement l'avortement qui est effectué conformément aux dispositions de la loi. On a également des dispositions dans la loi Pelletier qui sont intéressantes. Je vous ai dit tout à l'heure que le médecin, et qui est consulté la première fois, doit informer la femme des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et ses maternités futures. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la loi Pelletier. La loi Pelletier ajoute ceci. Et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite. Donc, on ajoute un élément supplémentaire sur la gravité biologique de l'intervention. Le dossier guide remis par le médecin, on va introduire une obligation supplémentaire, il doit être mis à jour une fois par an. Et puis, dans ce dossier guide, indépendamment de ce qui était mentionné, on va y ajouter un rappel de l'article 1er de la loi Veil, c'est-à-dire cet article qui nous dit que la vie est garantie dès son commencement. On va y rajouter les associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle. Et on va ajouter également, ça c'était pas un progrès, la liste et les adresses des établissements où sont effectuées les interruptions volontaires de grossesse. Je vous avais parlé également de la consultation auprès d'un établissement agréé. Je vous rappelle la disposition de la loi Veil. Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation d'intéressé lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés. Et la loi Pelletier ajoute, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. L'expression est belle, garder son enfant. Encore une fois, on parle d'un enfant. À cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association serait susceptible d'apporter une aide morale matérielle aux femmes et aux couples confrontés au problème de l'accueil de l'enfant. Donc des dispositions qui vont plutôt apparemment dans le bon sens. Je ne reprends pas l'intégralité de la loi Pelletier parce que ce serait trop long, mais je voudrais attirer votre attention sur deux derniers points. L'article 12, très important, va instituer les commissions d'aide à la maternité. La section 2, entre parenthèses, prévention de l'avortement, du chapitre 1er du titre 2 du Code de la famille et de l'aide sociale est complété par un article additionnel 44-1 ainsi rédigé. Des commissions d'aide à la maternité sont mises en place sur l'ensemble du territoire, notamment auprès des centres médico-sociaux ou des bureaux d'aide sociale des grandes villes. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Elles doivent comprendre les personnes qualifiées dans le domaine social et familial, etc. Et puis, donc c'est important, hein, j'y reviendrai, hein, n'oubliez pas cela parce que vous voyez revenir. Donc cette loi Pelletier institue des commissions d'aide à la maternité dont la composition et le fonctionnement doivent être fixés par décret en Conseil d'État. Et puis, la loi Pelletier institue une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques. Les membres de la délégation sont désignés par chacune des assemblées du Parlement. La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission d'informer les assemblées, premièrement, des résultats de la politique menée en faveur de la natalité. Deuxièmement, de l'application des lois relatives à la régulation des naissances et à la contraception. Troisièmement, de l'application des conséquences de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire qu'on a également cette délégation parlementaire qui doit informer le Parlement et les pouvoirs publics de l'état de la législation et qui doit nous dire un petit peu où on en est de l'application de la loi. Donc, nous avons un dispositif législatif qui est intéressant parce qu'il autorise effectivement l'avortement pendant les 10 premières semaines de grossesse, également l'avortement thérapeutique pendant toute la grossesse, mais il semble que le législateur ait été soucieux d'affirmer la nécessité de protéger la vie humaine, d'affirmer son souhait de protéger la vie humaine dès son commencement. Alors, je pense effectivement que vous êtes en train de vous poser des questions, parce que vous dites, bah oui, mais franchement, tout à l'heure, il nous a dit, il y a plus de 200 000 avortements par an, 21% des enfants conçus, dès l'origine, donc peu ou prou dès la loi Veil, alors comment ça se fait qu'on aboutisse à un résultat comme celui-là? C'est une question, effectivement, que nous devons nous poser et qu'on va se poser très rapidement en examinant, en reprenant très brièvement la loi. Si je reprends la loi Veil sur les conditions de mise en œuvre de cette loi au départ, article 1662.1 du Code de la santé publique tel que modifié par la loi Veil. Je vous l'ai lu, je vous le relis. La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse, etc. Qui contrôle la détresse? Personne. Est-ce qu'il y a un organisme qui va dire à madame, vous êtes en situation de détresse, madame, on va vous donner la solution à vos problèmes et vous ne serez plus en situation de détresse? Non, ça n'existe pas, ça. On est en face d'une notion 100% subjective, 100% invérifiable. Et donc, on aboutit tout naturellement à un avortement qui est totalement libre et qui est totalement de convenance pendant les 10 premières semaines de grossesse. Il suffit que la femme vienne voir le médecin et dise « moi je m'estime en situation de détresse ». Elle n'a d'ailleurs même pas besoin de dire ça. Il suffit qu'elle dise « je veux me faire avorter » et puis c'est tout. Alors on avait posé la question pendant les débats parlementaires, parce que les députés, surtout les députés de l'époque, c'était des gens qui avaient quand même une certaine culture juridique, et il y a un certain nombre de députés, probablement de la majorité de l'époque, qui ont dit, mais enfin, c'est dans les questions au gouvernement, il y a un problème parce qu'on a un article 1 qui nous dit que la loi garantit le respect de la vie humaine dès son commencement et qu'il ne saurait y être, ça ne saurait être remis en cause qu'en cas de nécessité. Or, un petit peu plus loin dans la loi, il n'y a aucun contrôle et il suffit que la femme s'estime en situation de détresse. Donc, la nécessité, elle est directement remise en cause et le principe posé par l'article 1, il est directement remis en cause dans la loi elle-même. Est-ce que dans ce cas-là, s'il apparaît que la femme n'est pas en situation de détresse, est-ce que l'avortement va devenir illégal et tomber sous le coup de la loi pénale? Et le ministre, qui était Madame Veil, je suppose, avait répondu que, mais pas du tout. Je cite, le fait que durant les 10 premières semaines, la femme ne serait pas réellement en état de détresse ne restituerait pas à l'avortement ainsi pratiqué le caractère illicite et délictueux. Et par conséquent, l'avortement devient discrétionnaire et sans cause, il est totalement libéralisé pendant ce délai, il est totalement libre, et le droit à la vie, qui est affirmé par la loi, n'est pas respecté par cette loi. Ce qui explique que dès l'origine, on ait plus de 200 000 avortements par an, je vous l'ai dit, 21% des enfants conçus, que l'avortement soit devenu un véritable moyen de régulation des naissances, contrairement au second principe posé dans l'article 13 de la loi Veil, et que certaines personnes viennent parler d'un droit à l'avortement, même si les pouvoirs publics à l'époque disaient « Non, il n'y a pas de droit à l'avortement, parce que la loi Veil, elle respecte. » Alors c'est certain que nous avons une législation qui est contradictoire. Qui est contradictoire puisqu'elle pose un principe de respect de la vie humaine et que, 10 lignes plus loin, elle prévoit que ce principe est totalement bafoué et qu'il est bafoué dans le texte, dans le texte même de la loi qui l'institue. Elle pose même un second principe, celui selon lequel l'avortement ne doit en aucun cas constituer un moyen de régulation des naissances, et elle le bafoue de la même façon. Alors, est-ce qu'une loi comme celle-là peut passer le cap du Conseil constitutionnel? J'ai ici l'arrêt du Conseil constitutionnel, qui est intéressant. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit, considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est en l'état contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, où je fais une parenthèse, la Constitution de 1958 reprend le préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle édictées par le même texte, considérant en conséquence que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule, non plus qu'aucun des articles de la Constitution. Et M. Léo Hamon, qui avait été ministre de la Justice à une époque, je ne sais plus quand, mais qui était un fin juriste, a fait une note que j'ai récupérée dans le recueil Dalloz de 1975. Je vais vous lire quelques passages, c'est intéressant. La rédaction de la loi ne va pas sans contradiction. Le système du législateur consiste ainsi à affirmer le droit à la vie dès la conception, article 1er, pour admettre ensuite, article 2 et 4, qu'il peut y être dérogé sur la décision de la mère placée dans un état de détresse qu'elle-même apprécie discrétionnairement en dernier lieu. Pratiquement, le droit à la vie énoncé à l'article 1er n'est pas, jusqu'à la 10e semaine, opposable à la mère, qui, après réception de différents avis, se considère comme en état de détresse. Peut-on dire que le principe posé à l'article 1 de la loi est sauf, alors que les articles 2 et suivants, sans employer le mot de nécessité réservé à l'article 1, autorisent la femme enceinte qui se considère en état de détresse à déroger au principe de la vie humaine? Comment le juriste pourrait-il accepter de considérer un principe comme sauf dès l'instant où il est énoncé, même s'il est permis par la loi d'y déroger 10 semaines durant sur décision individuelle? Suffirait-il donc désormais au législateur, ça c'est important, pour être en règle avec les préambules, d'énoncer les principes qu'il prétend respecter pour ménager ensuite leur transgression éventuelle? Monsieur Léo Hamon met bien le doigt sur le problème essentiel de la loi Veil. On pose un principe qui, je le rappelle, j'insiste, n'avait jamais été posé auparavant. Principe du respect de la vie dès son commencement, garanti par la loi. Pour bien transgresser ce principe, quelques alinéas plus loin dans la loi. Alors à quoi il sert ce principe ? Lorsque je lis l'arrêt du Conseil constitutionnel, je me dis, c'est une évidence, ça résulte du texte de cet arrêt. Si la loi a passé le cap du Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il y avait ce principe de respect de la vie humaine. Donc, le principe, il n'est pas là pour protéger la vie. Il est là pour protéger la loi d'une censure du Conseil constitutionnel. Et donc, à mon avis, il est édicté pour protéger cette loi et pour qu'elle puisse passer le cap du Conseil constitutionnel sans difficulté. Donc, je n'ai pas encore employé le mot, mais je l'emploie parce qu'à mon avis, il n'est pas trop fort. On est véritablement dans le cadre de ce que j'appellerais une véritable manipulation des institutions. Pas seulement le problème de la contradiction d'une loi qui dit des choses et qui dit le contraire un peu plus loin, des lois mal rédigées, ça arrive de temps en temps à ce point-là, non, mais bon, ça peut arriver. Mais là, en l'espèce, on est véritablement dans le cadre d'une manipulation avec un principe qui est affirmé pour être aussitôt transgressé et qui est affirmé pour protéger la loi. On va retrouver exactement la même chose. Alors, petite parenthèse. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Parce que j'ai parlé de manipulation, j'ai employé un terme très fort. Donc je prête au pouvoir public de 1975 et 1979 de très mauvaises intentions. Est-ce que on peut mettre en cause l'honnêteté des pouvoirs publics ou est-ce qu'on doit simplement considérer que bah oui, ils ont mal bâti leur loi, c'était involontaire? Alors, je ne pense pas que c'était involontaire. Je ne pense pas que c'était involontaire parce que depuis la loi Veil, nous sommes dans un système qui est résolument un système abortif. D'abord, je vous ai parlé, je vous donne quelques exemples. Je vous ai parlé du délit de provocation à avortement même illicite. Vous savez combien de poursuites il y a eu pour ce délit ? Eh bien, il n'y en a eu aucune. Voilà un texte de la loi pénale, qui était dans notre code pénal, qui n'a jamais donné lieu à des poursuites. Moi, je suis pénaliste, je peux vous dire que certains textes, effectivement, qui prévoient certaines infractions un peu plus rares, on les voit pas souvent mis en œuvre. Mais ça, jamais. Jamais, alors qu'on sait très bien que des organisations comme le planning familial ont pratiqué cette provocation à l'avortement, même ici, dans des proportions phénoménales. Jamais poursuivi. Jamais personne n'a été poursuivi. Parallèlement, quand on a créé le délit d'entrave de la loi Neyers, alors le délit d'entrave, c'était dans la loi initiale, la loi Neyers, puni de 2 mois à 2 ans, d'une amende de 2 000 à 30 000 francs, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables, soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L162-2, ou la libre circulation des personnes, c'est les gens qui allaient s'enchaîner dans les cliniques, dans les avortements ou dans les services des hôpitaux, soit en exerçant des menaces ou actes d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux ou non médicaux, ou des femmes venues subir une interruption volontaire de grossesse. Alors là, ce texte-là, il a été appliqué de façon systématique. De façon systématique, notamment dans les années 94, 95 et 96, au cours desquelles il y a eu des gens qui allaient s'enchaîner dans les endroits où on sait des avortements, qui ont été poursuivis devant les tribunaux, condamnés à des amendes importantes, il y a même eu des peines de prison ferme. Bon, elles ont été réformées par les cours d'appel, mais elles ont été transformées en amendes importantes, des dommages et intérêts très importants pour toutes les associations qui défendent les droits des femmes. Et là, la loi pénale, elle a été appliquée. Je fais une toute petite parenthèse sur ce texte. L'avortement, du fait de cette loi Meyers, qui réprime les gens qui viennent s'enchaîner, perturber l'accès, etc. L'avortement est la seule activité, entre guillemets, médicale, qui est protégée par un texte spécifique. Si vous allez vous enchaîner dans un bloc opératoire où on fait une opération pour empêcher une opération d'appendicite, vous serez poursuivi. Vous serez poursuivi sur la base d'un certain nombre de textes du droit pénal qui poursuivent des infractions qui peuvent se produire un peu partout. Mais si vous allez vous enchaîner dans un endroit où on fait les avortements, vous serez poursuivi sur la base de ce texte spécifique. Et seul l'avortement, dans ce qui se fait dans les hôpitaux, est protégé par un texte spécifique pour ce type d'activité. Autre exemple le mot n'est pas trop fort. Non, le mot n'est pas trop fort. La duplicité des pouvoirs publics. Je vous ai parlé tout à l'heure des commissions d'aide à la maternité. Je crois, si vous en souvenez, je vous ai dit dans la loi Pelletier, il y a quelque chose de très bien, c'est qu'on a institué des commissions d'aide à la maternité et leur les commissions d'aide à la maternité sont mises en place sur l'ensemble du territoire, leur composition, leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. C'est bien. Seulement le décret n'est jamais paru. Il n'y a pas eu. Donc il n'y a pas eu de commission d'aide à la maternité. Et puis la section où ce texte était inséré, hein, c'était dans la section 2. Du chapitre 1er du titre 2 du Code de la Famille qui s'appelait Prévention de l'avortement. Vous pouvez chercher hein, dans le Code de la Famille, vous ne trouverez pas hein, Prévention de l'avortement. Ça a été supprimé la section entre-temps. Donc à l'époque, oui, il y avait une section Prévention de l'avortement. Mais ça a été supprimé, ça n'existe plus. Parallèlement à cela, donc, nous avons également des lois comme la loi Roubie en 1982. Qui va, et comme celle qui vient d'être votée récemment, là, je crois que c'était 30 ou 31 octobre, la loi de financement de la sécurité sociale, qui institue le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale, c'est-à-dire que l'ensemble des citoyens, même ceux qui ne sont pas d'accord, il faut qu'ils financent l'avortement. En 1982, il y avait beaucoup d'argent dans les caisses, je crois que c'était pas choquant, mais il y avait de l'argent, on ne savait pas quoi en faire, donc on remboursait l'avortement. Par contre, au jour d'aujourd'hui, alors je suppose qu'entre-temps, j'ai dû le rembourser intégralement. C'est pour ça que ça a été rétabli par notre présent gouvernement, là, dans cette loi qui vient d'être votée le 30 octobre. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est proprement scandaleux si on relève qu'il y a de plus en plus de pathologies qui ne sont pas prises en compte par la sécurité sociale et qu'il y a de plus en plus de médicaments qui ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Par contre, l'avortement est remboursé. Alors, je vous ai parlé de la conformité avec notre législation interne. c'est l'arrêt du Conseil constitutionnel, mais je dois vous dire deux mots de la conformité avec les normes internationales. Parce que, s'il y a parmi vous des étudiants en droit, des juristes qui connaissent bien le problème, nous avons un système de hiérarchie des normes et nous avons des traités internationaux qui sont auxquels la loi française doit bien entendu impérativement se conformer. Parmi les traités internationaux, il y en a trois qui peuvent concerner la défense de la vie. La Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, et puis la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. Alors, j'attire bien votre attention, nous avons deux textes qui sont antérieurs à la loi Veil, Convention européenne de sauvegarde de 1950 et Pacte international de New York du 19 décembre 1966, et puis nous en avons un qui est postérieur, qui est la Convention de New York du 26 janvier 1990. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces textes ? La Convention européenne du 4 novembre 1950, bon, elle ne parle pas expressément du droit à la vie, parce qu'à l'époque, on ne se posait vraiment pas la question. Elle nous dit ceci, le droit de toute personne à la vie, si quand même elle le dit comme ça, est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, etc. Donc à l'époque, il se positionnait plutôt par rapport à la peine de mort, qui de toute façon était autorisée dans certaines législations nationales et ne posait pas de difficultés. Par contre, dans le pacte international de New York du 19 décembre 1966, nous avons des choses beaucoup plus intéressantes à mon avis, et notamment cet article qui est l'article 6 qui dit ceci, « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi, nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » Et puis, nous avons, alors on n'a pas fait de réserve hein, à l'époque, parce qu'un État peut faire des réserves. On n'a pas fait de réserve concernant l'avortement, parce que de toute façon, l'avortement n'existait pas dans notre législation. Par contre, on a fait des réserves, après la Convention de New York relative aux droits des enfants, du 26 janvier 1990, qui nous dit ceci, l'article 6, les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Un droit inhérent. Les États parties assurent dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l'enfant. Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention. Alors là, on a fait une réserve. Le gouvernement de la République déclare que la présente convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse. Alors on a sur ces normes internationales, on a une jurisprudence relativement abondante. Alors j'ai isolé deux décisions. Une décision du Conseil d'État du 21 décembre 1990. Le Conseil d'État avait été saisi par des associations familiales sur un problème de pilules abortives. C'était pas le RU 486, c'était quelque chose avant sur le plan biologique, je ne sais pas trop ce que c'était, mais c'était une autre substance. Enfin, peu importe, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est de voir la décision du Conseil d'État par rapport aux dispositions internationales. Vous savez de toute façon, vous savez d'avance ce que je vais vous dire. Donc, on avait invoqué la non-conformité de la loi Veil et de la loi Pelletier avec les dispositions internationales qui parlent d'un droit inhérent à la vie. Donc je cite le Conseil d'État, considérant qu'au terme de l'article 1er de la loi du 17 janvier 1975, la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions limites définies par la présente loi, qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17 janvier 1975, loi Veil, et 31 décembre 1979, loi Pelletier, relatives à l'interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du Pacte international sur les droits civils et politiques. C'est-à-dire que le Conseil d'État, dans cette décision, nous dit exactement la même chose que le Conseil constitutionnel. Il nous dit, mais le droit à la vie, il est protégé, puisqu'il est prévu dans l'article 1er de la loi Veil que la loi garantit le respect de la vie dès son commencement. Bien entendu, il y a une hypocrisie phénoménale, parce que le Conseil d'État, tout comme le Conseil constitutionnel, aurait pu répondre l'inverse, en disant, considérant que la loi Veil pose dans son article 1er le principe du respect de la vie dès son commencement, considérant que dans son article 2, elle permet sans aucun contrôle la suppression de la vie des enfants pendant les 10 premières semaines de grossesse, par ces motifs, déclarons que la loi Veil n'est pas conforme à la Constitution ou n'est pas conforme aux normes internationales. Donc on est effectivement en pleine hypocrisie. Et puis j'ai ici un arrêt de la Cour de cassation qui avait été rendu à la suite d'une affaire d'entrave à avortement. Donc c'est des gens qui avaient été condamnés en correctionnel, ils avaient fait appel, ils avaient ensuite saisi ils avaient été condamnés en appel, ils avaient saisi la Cour de cassation, et la Cour de cassation se prononce, et c'est intéressant, vous verrez, parce que je vous lis le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, et 6 de la Convention de New York, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc l'argumentation était la suivante. Alors que les articles 2 de la Convention européenne, etc., je ne vais pas vous le relire, la loi Veil est incompatible avec ces conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe de protection de la vie, en permettant à certaines conditions aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil a sorti cette permission n'ont aucune portée réelle, etc., la condition de détresse, de sorte que loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er, etc. Et la Cour de cassation, vous savez d'avance ce qu'elle va nous dire, mais je vais vous le relire parce que c'est pas très long. Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse, tant avec l'article 2, etc., que la Cour d'appel a à bon droit écarté cette exception, qu'en effet, la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit. Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celle du 31 décembre 1979 ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées, c'est-à-dire les traités internationaux. Alors, à partir de là, si vous voulez, le législateur, il peut tout se permettre, et notamment, par exemple, nous avons la loi sur la bioéthique du 29 juillet 1994, article 16 du Code civil. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Donc il est clairement indiqué partout que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie, mais en réalité, le respect n'est aucunement garanti du fait de disposition de la loi. C'est la raison pour laquelle j'ai employé, je pense que le mot n'est pas trop fort, le terme de manipulation. C'est une manipulation des institutions. C'est aussi une manipulation des gens qui liraient la loi un peu vite. C'est aussi une manipulation qui permet, lorsque quelqu'un critique la loi Veil, de dire « Mais si, regardez, la loi protège la vie, regardez l'article premier. » Mais c'est surtout une manipulation des institutions pour permettre que cette loi soit déclarée constitutionnelle et permettre qu'elle soit déclarée et conforme aux normes internationales. Je vais essayer d'être bref sur la loi du 4 juillet 2001. Donc le 4 juillet 2001, j'ai envie de dire, on sort de l'ambiguïté. On sort de l'ambiguïté même si on y est toujours, parce que l'article premier, il existe toujours. On dit toujours qu'on protège la vie. Mais en réalité, cette loi est animée d'un esprit qui vise à développer l'avortement dans des proportions considérables et à consacrer un véritable droit à l'avortement. Alors, brièvement, nous avons dans la loi du 4 juillet 2001, une loi qu'on appelle loi Aubry, mais on pourrait l'appeler loi Jospin aussi. Premièrement, l'allongement du délai légal. On passe de 10 à 12 semaines. Alors, je ne suis pas médecin, mais il paraît que entre 10 et 12 semaines, l'enfant est toxifié de façon plus importante et que c'est plus du tout la même nature d'intervention. Deuxièmement, en ce qui concerne l'information de la femme, je vous rappelle que le médecin devait l'informer des risques médicaux, la gravité biologique, c'est terminé. On doit l'informer des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse et des risques et effets secondaires potentiels, mais la gravité biologique, c'est terminé. Le dossier guide est totalement vidé de sa substance. Il ne rappelait plus la liste des organisations susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle, tout ça s'est supprimé. Il ne comporte plus l'énumération des droits et avantages qui peuvent être consentis aux familles ou aux mères célibataires, tout ça c'est fini. La consultation sociale, elle est facultative, donc elle n'est obligatoire que pour les mineurs. Pour les majeurs, elle est facultative. Suppression de l'autorité parentale pour les mineurs. Alors en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que l'autorité parentale est maintenue pour les mineurs, mais si la femme mineure veut garder le secret, veut pas en parler à ses parents, et qu'elle persiste dans cette intention, eh bien les parents n'en sauront rien. Il suffit qu'elle se fasse accompagner d'une personne adulte, qui peut être n'importe qui, extérieur à la famille, être par exemple le père de l'enfant. La clause de conscience, est légèrement modifiée, c'est-à-dire qu'on dit que le médecin doit prévenir, s'il n'est pas d'accord hein, pour faire une interruption de grossesse, il doit prévenir la femme sans délai. C'est une expression qui est quand même plus forte. Et il avait été indiqué pendant les débats parlementaires, je cite, la clause de conscience ne doit pas être de nature à priver la femme de son droit à l'IVG. On parle pour la première fois de droit à l'IVG. Également, dans la loi de 2001, suppression du contingentement dans les établissements de santé privés. C'est fini. L'avortement, on n'en voulait pas. Ben alors, finalement, le contingentement, il est supprimé. Disposition pénale, suppression du délit de provocation à l'avortement. Il avait été dit également au moment des débats parlementaires que ce délit était susceptible d'entraver le travail précieux des associations et des plannings familiaux. Fin de citation. Effectivement, ce délit aurait pu permettre de poursuivre le planning familial qui pratiquait à grande échelle la provocation à l'avortement, même s'il n'y avait jamais eu aucune poursuite. Par contre, le délit d'entrave à l'avortement, lui, il est aggravé. On n'aggrave pas la peine de prison parce qu'on s'est bien rendu compte que ça faisait pas peur aux gens qui allaient s'enchaîner, qui étaient des idéalistes, mais par contre, les amendes, elles passent de 30 000 francs à 200 000 francs. Et surtout, la définition de l'infraction est modifiée. Alors, dans l'ancien texte, je sais pas si je vais retrouver là. Dans l'ancien texte, il fallait soit on allait s'enchaîner, on entravait la circulation dans les établissements, soit on faisait des actes de menace ou d'intimidation. Dans le nouveau texte, ce ne sont plus des actes de menace ou d'intimidation, c'est un texte beaucoup plus large. Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques. Alors, où commencent les pressions morales et psychologiques? Si je montre insistant auprès d'une personne que je connais pour essayer de la dissuader de se faire avorter, et qu'après elle vient déposer plainte en disant « mais j'ai été victime de pressions morales et psychologiques », je tombe normalement sous le coup de la loi. Et je pourrais effectivement être poursuivi sur la base de ce texte. Alors, voilà l'état actuel de notre droit. Il faut rajouter, donc je vous en ai dit deux mots, le remboursement d'avortement, qui aujourd'hui, à une époque de déremboursement des médicaments, est proprement scandaleux. Il faut y ajouter la pilule abortive, le RU 486 du fameux professeur Beaulieu, qui s'appelle IVG médicamenteuse. Le terme médicamenteuse montre bien la manipulation du langage, parce que un médicament, c'est pour soigner une maladie. Donc on considère que la grossesse, c'est une maladie qui est soignée par ce médicament. Et surtout, c'est pas un médicament, c'est un poison. C'est en fait un poison pour tuer le bébé. Donc, on appelle poison abortif IVG médicamenteuse. C'est l'inversion totale du langage. D'ailleurs, le terme IVG est en soi également une inversion du langage, parce que interruption, quelque chose qui est interrompu, c'est quelque chose qui peut reprendre. Donc, interruption de grossesse, c'est normalement quelque chose qui devrait pouvoir reprendre, mais justement, ça ne peut pas reprendre. Donc, il y a là, vous voyez, dans ce terme IVG médicamenteuse, une manipulation du langage. C'est intéressant parce que ça montre bien la façon dont on peut faire évoluer les mentalités. On dit, bah, c'est une IVG médicamenteuse. Non. C'est un poison abortif qui est là pour détruire un enfant. Alors, que conclure ? Eh bien, d'abord, notre système, vous l'avez compris, il ne se contente pas d'autoriser l'avortement. Il aurait pu autoriser l'avortement et il aurait pu assortir cette autorisation d'un certain nombre de précautions afin d'en limiter le nombre. Ce n'est pas ce qu'on a voulu manifestement au niveau des pouvoirs publics et on a voulu ouvrir largement les portes de l'avortement. L'avortement est remboursé à une époque où tout n'est pas remboursé. L'avortement est protégé par la loi, je vous l'ai dit, seule activité médicale protégée par un texte spécifique. Le débat, parallèlement, est impossible. Ce n'est pas la peine d'essayer d'aller dans les grands médias parler de la défense de la vie, vous n'y parviendrez pas. Nous sommes à cet égard dans un système qui est un système totalement verrouillé. Et nous sommes dans un système qui est indiscutablement abortif et qui est indiscutablement contraire à la liberté. Alors, pour répondre à la question qui était mentionnée dans le programme des conférences, quelle liberté pour les femmes ? Quelle liberté pour les femmes ? À mon avis, il n'y a aucune liberté de pouvoir choisir de garder son enfant, puisque la femme, elle va aller voir un médecin. De toute façon, quand elle va prendre son rendez-vous à l'hôpital ou dans la clinique, on va la diriger naturellement vers le médecin qui fait les avortements, donc c'est pas lui qui va essayer de la dissuader, puisque lui, s'il en fait, c'est qu'il trouve ça normal, c'est qu'il trouve ça correct sur le plan de sa déontologie, ça lui pose pas de difficulté, et en plus, c'est son gagne-pain, donc par définition, il ne va pas attirer son attention sur la gravité biologique d'intervention, même s'il n'en a plus l'obligation. Il n'y a plus la consultation obligatoire vers un organisme agréé, et de toute façon, il n'y a plus maintenant la possibilité de résoudre les problèmes et d'inciter la personne à garder son enfant. Donc nous sommes dans un système qui est un système véritablement abortif, et donc je tiens, c'est important à insister sur ce point, nous ne sommes pas simplement dans un système qui autorise l'avortement sous condition, nous sommes dans un système qui veut, qui est ainsi conçu, qu'il y ait beaucoup d'avortements. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un lobby pour avortement, qui n'est pas seulement un lobby qui vise à autoriser l'avortement et à offrir cette possibilité-là, qui veut en fait qu'il y en ait beaucoup pour transformer l'être humain, pour le transformer en un homme nouveau, tout puissant, narcissique, et qui décide lui-même de la loi morale. Et je crois malheureusement que notre législation, elle porte l'empreinte de cette volonté, qui est une volonté destructrice, hein, il faut le dire, hein, il y a des mots qu'il faut employer, et voilà la raison pour laquelle je pense vous l'avoir démontré, et voilà la raison pour laquelle je crois qu'il n'est pas superflu, même si on se pose avant tout des problèmes philosophiques, qui sont les plus importants, hein, j'en suis conscient, mais voilà la raison pour laquelle il n'est pas superflu d'étudier notre système de législation qui autorise l'avortement. Je vous remercie.